Bonsoir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu étudiante, culturelle, politique, associative, économique ou sociale. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Enfilez donc un scaphandrier, il y en a pour toutes les tailles et pour tous les goûts. Je suis Tiffaine pour vous accompagner pendant cette heure au fond de l'eau. Mon équipage change tous les soirs et en ce jeudi, Rémi, Charlotte et Antoine sont à mes côtés. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et ce soir, je vous demande de sortir vos survêtements, vos déos et vos crampons. On va parler sport. On va parler sport et plus précisément sport angevin. Pendant ce sous-marin, vous entendrez pour parler basket Vincent Lavandier de l'ABC et David Girandière de l'UFAB. Pour parler hockey, Simon Lacroix. Et pour parler football, Serge Le Disait, entraîneur adjoint du SCO. Et forcément, pour parler sport, j'ai à mes côtés et à ma rescousse Charlotte de l'éternel journal des sports. Merci Charlotte de m'accompagner. Habituellement, tu es accompagné par Julien, mais ce mois-ci, il est en stage, on le retrouvera en mars. Parce qu'on ne change pas un sous-marin qui fonctionne, vous retrouverez comme chaque jour, en fin d'émission, l'agenda de votre soirée et la bulle sonore. Les hydrophones sont branchés, c'est parti. Alors, un sous-marin spécial sport, pourquoi? Parce qu'on s'est dit avec Julien et Charlotte, les deux chroniqueurs sportifs à bord, qu'on avait un joli terreau angevin. Pourquoi maintenant? Ça, par contre, c'est surtout pour des questions pratiques. Charlotte, on en est où et à quel stade dans les saisons sportives?
Alors, en ce qui concerne le hockey, la saison est terminée. Donc ça, c'est fait, ça sera fini, on n'en parlera plus, on parlera plus de hockey. Et pour le basket et le foot, ça continue encore. Vous inquiétez pas, on va encore parler de foot et de basket tous les lundis. Parce que c'est loin d'être fini et il y a encore une dizaine de matchs derrière nous.
Ça se termine quand à peu près?
À peu près en mai.
Pour le foot et le basket.
Pour le foot et le basket.
Alors, on va commencer cette émission avec l'interview enregistrée cet après-midi dans nos studios de Vincent Lavandier de l'ABC et de David Girandière de l'UFAB. Ça, c'est donc du basket, je l'ai compris. Mais c'est quoi la différence entre l'UFAB et l'ABC?
Alors, l'ABC, c'est un club de basket pour les hommes qui sont en National 1, donc ils ne sont pas encore pros. Et l'UFAB, c'est l'Union Féminine d'Angers Basket. Donc elles sont pros actuellement. Donc c'est des filles et des gars qui font du basket, tout simplement.
Et ils en sont où, chacun?
Alors, le basket féminin est actuellement 10e de son classement, donc de Ligue Féminine, le plus haut championnat de France. Et les garçons sont 2e de leur championnat, derrière Monaco, donc c'est assez serré.
Bon, on va en savoir un petit peu plus tout de suite avec l'interview de David Girandière et Vincent Lavandier qu'on écoute. À présent dans le sous-marin, on va parler basket avec Vincent Lavandier de l'ABC et David Girandière de l'UFAB. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Et pour m'aiguiller et m'épauler, Charlotte dans le studio toujours pour parler sport. Première question et après je te laisse la main Charlotte. Est-ce que vous suivez réciproquement les résultats de vos équipes? David Girandière, Vincent Lavandier?
Oui, moi je suis à peu près tous les résultats sportifs. L'ABC, oui, puisque j'ai passé 10 ans là-bas, donc j'observe et je regarde aussi ce qui se fait au niveau des garçons.
Vincent Lavandier?
J'étais coach avant en filles, donc on regarde toujours les filles, je ne sais pas pourquoi. Oui, je suis leurs résultats, les résultats, ça soit aussi dans d'autres sports, donc on est toujours féru de sport quand on est entraîneur.
Est-ce que ça vous stimule dans votre propre travail, pour vos propres équipes, de voir qu'une équipe du terrain angevin monte ou fait un score incroyable? Est-ce que vous dites qu'il faut qu'on fasse la même chose avec notre équipe?
Personnellement, non. Je suis content quand l'équipe de l'UFAB gagne. Comme c'est le cas avec le SCO ou le hockey, ça ne me dérange pas trop. C'est le sport angevin qui gagne, donc on est content. Après, chaque championnat est différent, chaque sport est différent. Donc on est heureux, mais on se concentre sur nous-mêmes.
Je laisse la parole à Charlotte à présent.
Merci. Alors, Vincent Lavandier, comme le SCO, vous êtes 2e de votre classement. Comment est-ce que vous gérez cette pression? Parce que doit sûrement y avoir une petite pression quand même d'être 2e.
La pression, c'est vous, c'est pas moi. Non, on prend match après match. On a de la chance d'être 2e. On fait une saison exceptionnelle qui n'était pas prévue. Après, on en profite. On veut y rester, ce qui est légitime. Donc non, pas particulièrement une pression dans le sens où vous pouvez l'entendre, c'est simplement la pression d'un sportif qui veut gagner ou d'un entraîneur qui veut faire gagner son équipe.
D'accord, donc l'objectif, il est clair, c'est celui de monter en probé, c'est ça?
L'objectif est de continuer à faire aussi bien et on veut s'accrocher à la deuxième place. Après au basket, on finit 2e au championnat. C'est pas comme le SCO qui finit deuxième et qui monte. Nous, on doit faire des play-offs pour essayer de remonter, avoir une deuxième montée. Et donc, si on finit deuxième, il y a un nouveau championnat qui commence.
Donc, ça va être compliqué. Et si vous montez en Pro B, c'est aussi un autre univers. Donc, ça vous fait peut-être peur aussi d'accéder à un univers professionnel comme celui-là ?
Non, j'ai déjà été entraîneur professionnel à ce niveau-là. Donc, le club a déjà été à ce niveau-là. La ville a déjà été à ce niveau-là. Je ne pense pas que ça fait peur. Bon, au contraire, ça motive. C'était le cas l'an dernier avec l'UFAB pour les filles. Je pense que ça motive et c'est un moteur de la réussite, la montée. C'est pas si on a peur de monter, il faut pas faire le sport.
Faut pas faire du sport, non, c'est clair. Le prochain match, c'est contre Vichy, qui est donc quatrième. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs avant un match comme celui-là, même si on sait il y a encore beaucoup de matchs derrière. Qu'est-ce que vous allez leur dire?
Est-ce 12 matchs derrière, c'est vrai, c'est long. En fait, Vichy, c'est un prétendant à la montée. Et ils ont eu beaucoup de blessures. Donc, je veux leur dire que la salle de Vichy, c'est une salle qui est injouable, normalement, avec un public qui met beaucoup de pression, avec une équipe aussi qui est la meilleure défense du championnat, très athlétique. Donc, je veux leur dire qu'il va falloir être intelligent et de pas paniquer si ça commence à se chauffer un peu dans la salle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait du sport aussi, c'est pour cette ambiance-là. Et je leur dirais de continuer sur la même voie, ne pas changer de mentalité, pas changer de finalité sportive ou technique ou stratégique. J'aime bien garder la même ligne directrice et il faudra la garder à Vichy comme pour les 11 autres matchs à suivre après.
Savoir jouer le basket que vous savez jouer et jouer bien surtout.
Si possible, oui, c'est mieux. Et en plus, si on peut gagner en jouant bien, c'est encore mieux. Non, il faut toujours garder la même ligne directrice parce que quand on se déroute un petit peu, on se perd. Et quand on se perd, ça crée un désordre. Et le désordre est négatif pour la réussite sportive.
Alors, David Girandière, vous, c'est un peu plus compliqué qu'avec votre ami de l'ABC. Vous êtes 10e du classement de la Ligue féminine, qui est donc, on le rappelle, le plus haut niveau du championnat de France. Comment est-ce que vous expliquez un classement comme celui-là ?
Notre 10e place ?
Oui.
Je trouve déjà qu'elle est, très, très bonne, puisqu'il faut revenir un petit peu en arrière. On monte simplement de Ligue 2 avec des joueuses qui ne sont pas que professionnelles, puisque j'ai des joueuses qui travaillent, j'ai des joueuses aussi qui sont étudiantes. Et dans un championnat professionnel, être à la 10e place avec 5 joueuses simplement professionnelles et 5 joueuses amatrices, on est, je pense, à notre place. Maintenant, il faudra y rester pour se maintenir en Ligue féminine.
Au regard, justement, de cette montée de l'UFAB, Vincent Lavandier, vous, si vous montez en Pro B, vous n'avez pas peur que ça se reproduise de la même manière ? On monte d'un cran, mais du coup, on baisse dans le classement ?
Alors, si on monte en Pro B et qu'on est deuxième à la même époque, je signe tout de suite. Non. L'objectif, c'est de faire par étapes des apprentissages. Donc, comme fait l'UFAB, il y a des apprentissages quand on monte. Ça fait partie du jeu. Et après, ça permet aussi de faire grandir un club ou de refaire grandir un club. Donc, non, il n'y a pas de crainte là-dessus.
Concernant l'UFAB, on revient à l'UFAB. Vous avez donc des nouvelles recrues, comme la Croate Iva Sliskovic, qui a été quand même élue MVP, donc meilleure joueuse de la 17e journée. Est-ce que vous pensez que ces recrues-là ont vraiment apporté quelque chose dans le jeu angevin et dans votre jeu ?
Elles nous ont apporté dans le jeu, mais aussi à côté, puisque elles font partie justement de ces joueuses professionnelles. Donc elles nous ont amené beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, guidé aussi les jeunes joueuses qui font partie de cet effectif. Et au-delà de l'aspect terrain, elles nous apportent aussi beaucoup à côté.
Dans le mental, c'est bon d'avoir une joueuse comme Murphy ou comme Sliskovic ?
Ouais, comme c'est bon d'avoir les 8 autres aussi à côté, puisque chacune est vraiment différente. Donc ces joueuses-là nous amènent leur expérience, nous amènent aussi tout leur envie, toute leur motivation et toute leur expérience aussi bien internationale, nationale, pour guider justement nos jeunes joueuses.
Votre prochain match, c'est contre Villeneuve,
oui,
qui est dans le haut du classement.
Ben, un petit peu plus haut que nous.
Ouais. Un petit peu plus haut que vous, ouais, troisième. Donc comment est-ce que vous préparez un match comme ça ?
On le prépare de la même façon qu'on est allé à Nice. C'est-à-dire que nous, on prend les matchs un par un. C'est une équipe qui est sur une très bonne dynamique, qui va faire une demi-finale de Coupe d'Europe, qui s'est qualifiée pour les finales de Coupe de France contre Bourges. Donc, on sait que c'est une équipe qui va voir venir chez nous avec beaucoup d'envie pour pouvoir continuer leur progression. Sauf que nous, on a une carte à jouer chez nous. On n'a jamais perdu de beaucoup, à part peut-être Bourges chez nous, mais on a réussi à tenir des équipes comme Basketland, comme Montpellier. Donc, ce sera à nous de tout mettre en avant pour pouvoir les mettre en difficulté.
David Girondière, Valérie Fonéron, la ministre des Sports, veut débloquer une enveloppe d'un million d'euros, elle en a parlé en début de mois, pour aider à la médiatisation du sport féminin. Est-ce que déjà vous en souffrez de ce manque de médiatisation? Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez de cette enveloppe d'un million d'euros?
Qu'elle va nous la donner, j'espère, pour nous. Non, mais bien sûr, le sport féminin en général, au niveau de la médiatisation, c'est, je vais pas dire catastrophique, mais pas loin quand même. Donc voilà, nous on est sur une ville comme Angers où il y a beaucoup de sport. Donc notre histoire est jeune aussi, hein, c'est la première année qu'on évolue à ce niveau-là. L'an dernier on était en Ligue 2, on venait monter de NF1, donc on apprenait, on a appris vite. J'espère qu'on va continuer à apprendre vite pour pouvoir se maintenir, mais je veux dire qu'on est à l'image de la médiatisation qui est faite au niveau du sport féminin.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pallier ça, ces lacunes? Parce qu'un million d'euros, on ne voit pas très bien à quoi ça pourrait servir. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens s'intéressent enfin au sport féminin?
Je ne suis pas ministre. déjà, en parler plus, que ce soit plus médiatisé, que sur les télés, là, ça commence à s'y mettre un petit peu au niveau du basket, qu'on ait un peu plus de droits d'image, qu'on en parle un petit peu plus déjà, ce serait bien, et qu'on serait soit sur le même pied d'égalité par rapport au sport masculin. Déjà, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas.
J'avais une dernière question. Vu qu'on a eu beaucoup de mal à organiser cette soirée sport et que toutes les interviews sont enregistrées, je me demandais à quoi ressemble une journée d'entraîneur. Commencer par Vincent Lavandier, peut-être, comment sont découpées les journées d'un entraîneur pour la BC.
C'est simple, ça commence par lever les enfants et les emmener à l'école. Après, on reçoit les autres enfants, donc les joueurs. Moi, j'aime bien entraîner le matin, des entraînements longs le matin, donc j'aime bien que les joueurs se lèvent. Donc on s'entraîne à peu près vers 10h du matin. Jusqu'à midi, midi et demi en fonction des périodes. Et après, je fais un entraînement qui peut être à la fois facultatif ou alors à base de tir, le soir à 16h jusqu'à 17h ou 17h30. Et entre-temps, ça c'est par exemple d'entraînement avec les joueurs. Mais après, il y a les préparations, il y a surtout aussi le scouting. On regarde beaucoup de vidéos pour préparer le prochain match, voire pour faire un retour vidéo sur notre dernier match aux joueurs. Et en fait, la partie technique, c'est 20%. Et 80% c'est tout le reste. Il y a aussi la gestion des dirigeants, la gestion des agents, la gestion du marketing, la gestion du commercial, donc le rapport avec la presse. Ça c'est plus on monte de niveau, plus c'est important et ça prend beaucoup de temps. Parce que c'est beaucoup de communication, de téléphone, d'email maintenant. Merci les mails, ça fait du bien. Voilà, c'est ça qui est le plus long en fait. C'est pas l'entraînement en soi ou la gestion d'un groupe ou la gestion technique. Le plus long c'est les à côté.
David Girondière, votre emploi du temps type en tant qu'entraîneur de l'UFAB?
Même chose, hein. Lever les filles, les emmener à l'école au départ. Et après, c'est un petit peu différent puisque moi, j'ai aussi une responsabilité de coordination technique au niveau du club. Donc, je m'attache à passer un peu de temps avec les salariés du club pour coordonner un petit peu toute la structure de l'association. Et après, moi, c'est plutôt le midi. Après Vincent, généralement, on s'entraîne avec les joueuses professionnelles et puis celles qui ont la possibilité de se libérer par rapport à leur emploi du temps. Et après, c'est même chose, beaucoup de visionnage vidéo, beaucoup de mails, de coups de téléphone. Et puis, on s'entraîne le soir, après le travail des joueuses.
Merci beaucoup, Vincent Lavandier et David Girondière. Et donc, bon courage pour ces journées remplies.
Merci.
Merci à vous. À bientôt.
Dans ce sous-marin spécial sport, on va tout de suite marquer une pause parce qu'on est fatigué de tout ce sport, justement. Narvalo avec Voodoo Bilouz. We'll be right back. Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers, un sous-marin très spécialement consacré au sport. Et j'ai donc à mes côtés Charlotte, notre chroniqueuse sportive, qui avec Julien forme un duo incontournable le lundi. Alors la deuxième interview de ce sous-marin, c'est celle de Serge Ledizet, adjoint de Stéphane Moulin au SCO d'Angers, qui jouera bientôt contre Moulin d'ailleurs, c'est drôle. Le SCO qui court après deux objectifs, si je peux me permettre de le souligner, le championnat de France et la Ligue 1. Parce qu'ils sont actuellement en Ligue 2. Tu m'arrêtes, Charlotte, si je
t'en dis. C'est exactement ça, c'est parfait.
Mais alors voilà la question, c'est quoi le championnat de France et c'est quoi la différence entre le championnat de France et la Coupe de France ?
Alors, donc le championnat de France, c'est tout simplement des équipes qui s'affrontent, donc en match aller et en match retour. Donc c'est à domicile ou à l'extérieur. C'est dans un... Donc là, on est en Ligue 2. Donc chaque championnat, c'est soit Ligue 1, Ligue 2. Après, on redescend un peu dans les étapes. La différence entre un championnat de France et une Coupe de France, c'est que la Coupe de France, ce n'est pas réservé qu'aux équipes de Ligue 2, par exemple. C'est réservé à toutes les équipes, en allant des équipes amateurs, des plus basses équipes amateurs, jusqu'à la Ligue 1. Donc c'est pour ça que des fois, on a des
Le championnat de France.
Voilà, c'est ça. C'est pour ça que des fois, on a des matchs, par exemple, le PSG qui affronte une équipe de CFA2, donc une petite équipe, c'est le CFA2, c'est amateur. Donc des fois, on a des grands joueurs qui affrontent des... Pas des petits joueurs,
des
joueurs amateurs, on va dire. Voilà. Donc c'est la différence, c'est que la Coupe de France est ouverte à tout le monde.
Le championnat de France.
La Coupe de France. La Coupe de France est ouverte à tout le monde. Et le championnat de France, c'est spécifique à chaque niveau.
D'accord. Bon, entendu. Tout de suite, on va écouter l'interview de Serge Ledizet, donc l'adjoint de Stéphane Moulin au SCO d'Angers. Bonjour Serge Ledizet.
Bonjour.
Vous êtes adjoint de Stéphane Moulin, entraîneur du SCO. Pour ceux qui ont collectionné les autocollants Panini en 94, votre visage est familier. Vous avez joué au FC Nantes pendant l'âge d'or. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours assez rapidement? Comment vous êtes arrivé à Angers?
Angers, c'est un petit peu... C'est un petit peu, non pas le hasard, mais ça s'est fait assez rapidement. Je devais signer en tant que responsable du centre de formation d'Auxerre. Je m'étais mis d'accord avec les dirigeants auxerrois de l'époque. Et puis, juste avant la signature, il y a eu un changement de présidence. Voilà, le président Dujon qui m'avait contacté a été obligé de quitter le club. Et donc, voilà, les nouveaux dirigeants qui sont arrivés n'ont pas souhaité qu'on aille plus loin dans ce projet-là. Donc voilà, je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi, on va dire. Et puis en parallèle, Stéphane Moulin et Olivier Piqueux, recherchaient un entraîneur adjoint, mais également un entraîneur diplômé du DEPF, voilà, m'ont contacté parce que j'avais ce profil. Je pouvais tenir ce rôle d'adjoint, mais également j'avais ce DEPF nécessaire à Stéphane pour pouvoir entraîner en Ligue 2. Voilà, donc ils m'ont présenté le projet, j'ai accepté rapidement et je me suis retrouvé en juillet 2011.
Donc le SCO est aujourd'hui deuxième du championnat de Ligue 2. Donc l'objectif, tout le monde le sait, c'est la Ligue 1. Comment est-ce qu'on gère cette pression? Parce qu'il y a quand même une pression de deuxième qui va vers quand même le championnat de France, donc la Ligue 1. Et comment est-ce qu'on gère ça?
Tout d'abord, rappeler que l'objectif n'était pas forcément la montée au début de saison. Je crois que l'objectif initial était de faire aussi bien, voire mieux que la saison passée. Donc l'année dernière, on avait terminé cinquième. Donc effectivement, l'objectif de la montée est arrivé dans un second temps. On a fait un bon début de championnat, les succès se sont succédés, on va dire. On a pris confiance en nous et effectivement, au fil des matchs, au fil des mois, on a vu qu'on arrivait à garder une place sur le podium. Donc effectivement, aujourd'hui, à un bon tiers de la fin du championnat, on se dit pourquoi pas nous. Donc c'est devenu un objectif, mais ça n'en était pas un au départ.
Surtout que bon, c'est quand même l'objectif, on le sait, mais il y a quand même aussi la Coupe de France. Vous êtes maintenant arrivé en quart de finale. Ça fait des matchs en plus, beaucoup de matchs en plus. Est-ce que c'est pas dur physiquement? Comment est-ce qu'on gère la Coupe de France et le championnat en même temps?
Disons qu'on prend les matchs les uns après les autres. Mais je crois que ça reste quelque chose de positif. On est footballeur pour faire des matchs, et notamment des matchs de haut niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, On est en huitième de finale de la Coupe de France, je dirais même en quart.
Et surtout en quart, ouais.
Voilà, on s'est qualifié pour les quarts. Et donc, je pense qu'on a vraiment un match intéressant à jouer contre Moulins. C'est une demi-finale, une demi-finale de Coupe de France. C'est pas tous les ans qu'on la dispute, même si effectivement le SCO d'Angers l'a déjà disputé il y a trois saisons. Donc je crois que voilà, on prend les matchs les uns après les autres. On a un effectif aujourd'hui, je pense, qui doit nous permettre de jouer sur les deux tableaux. Et puis les victoires appellent les victoires. Donc on a su gérer les matchs d'après coupe pour ne pas être distancé en championnat. Donc je crois que on est capable de jouer les deux, même si effectivement le championnat aujourd'hui, par rapport à notre position, reste la priorité parce que voilà, la Coupe de France, on la rejouera la saison prochaine. Être sur le podium aujourd'hui et y rester, on n'est pas sûr de pouvoir le rééditer la saison prochaine. Donc voilà, je crois que on a tous l'objectif de figurer au mieux sur les deux tableaux aujourd'hui.
La Coupe de France, ça fait quand même un peu rêver. Ça vous fait rêver, vous ? Et l'équipe surtout, ça fait rêver tout le monde.
Oui, c'est sûr. Alors effectivement, aujourd'hui, on va jouer Moulins. C'est pas un nom qui fait rêver.
Enfin, non. Ça dépend pour qui.
Voilà, je crois que c'est pas le PSG, c'est pas Saint-Étienne, c'est pas Marseille. Mais je crois que ça va être un match difficile. C'est pas une petite équipe. Aujourd'hui, on voit que les matchs contre les équipes de CFA sont très difficiles. Ce sont des équipes qui sont bien préparées. Alors on va pas jouer à Moulins, on va jouer à Guignon. Ça va être certainement un stade tout acquis à la cause de Moulins. Donc ça va être un match difficile. Et il va falloir qu'on soit à notre meilleur niveau pour pouvoir passer. Mais on en a les moyens. Je crois que l'équipe a la volonté de passer ce tour pour pouvoir effectivement tirer certainement un gros morceau.
Serge le disait, physiquement, sans doute, c'est compliqué. Mentalement, ça doit l'être aussi. Comment est-ce que le staff gère ça ?
Ben, on essaye de mettre tout en place au niveau de la récupération après les matchs. Il faut savoir que l'autre jour, après notre match de Bastia, on a mis rapidement les joueurs dans un processus de récupération. Donc, que ce soit à travers des bains froids, à travers des repas étudiés tout de suite après les matchs. Donc, on essaye effectivement de leur apporter le maximum aussi avec nos moyens, avec les moyens du SCO, bien évidemment, pour pouvoir récupérer le mieux et le plus vite possible. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un effectif, je pense, un peu plus important que la saison passée. On a un groupe qui est assez homogène. Donc, Stéphane Moulin, voilà, essaye de faire tourner son effectif au mieux pour qu'il y ait le moins de fatigue possible et qu'on essaye de tenir ce groupe en entier en haleine parce que ça fait aussi la différence de tenir ce groupe, tous les éléments de ce groupe concernés jusqu'au bout parce que la saison est encore longue. Il y aura ce match de Coupe de France contre Moulins, mais il y a encore beaucoup de matchs de championnat, donc il faut penser à tout. Voilà, c'est notre travail au quotidien de gérer la fatigue, de gérer les humeurs, l'état d'esprit de chacun des joueurs.
Et pour en revenir au championnat, justement, la semaine dernière, vous avez joué contre Laval, qui est une équipe relégable. Au match aller, vous avez perdu 4-1. Là, vous avez fait un partout assez difficilement. Est-ce que ça n'a pas installé un peu le doute dans l'équipe ou au contraire, ça a plutôt renforcé le mental ?
Bon, il faut savoir que cette année en Ligue 2, si vous suivez bien le championnat, aucun match n'est facile. Je crois que les matchs se jouent sur peu de choses. Nous, depuis le début de saison, on a gagné beaucoup de matchs, mais ça s'est joué à chaque fois aussi sur peu de choses, des petits détails. Alors, entre une défaite, un match nul et une victoire, je vous ai dit, des fois, ça joue sur peu de choses. Alors, non, la confiance, elle est là, parce qu'encore une fois, on a une position au classement qui est quand même hyper intéressante. Pour revenir au match de Laval, je crois que, sincèrement, Laval n'est pas à sa place dans ce classement. Je pense que c'est une équipe qui mérite largement une place. Au moins dans la première partie du championnat. Je crois qu'elle c'est une équipe qui nous avait surclassé sur le match aller. Samedi, ça a été encore une fois un match difficile. On avait certainement les deux heures du match de Bastia dans les jambes. Il y avait un terrain aussi, c'est pas une excuse, mais je pense qu'il faut en parler. C'était un terrain qui était très difficile avec beaucoup de sable. Donc effectivement, entre une équipe qui manquait un petit peu de fraîcheur comme nous et une équipe qui n'avait pas joué comme Laval, je pense que ça a été un élément aussi important dans la fraîcheur. Voilà, mais si vous regardez le match de hier soir entre Lens et Le Havre, vous regarderez aussi que c'est facile pour aucune équipe. Lens avait joué aussi en Coupe de France à Lyon. On a vu une équipe qui était quand même relativement fatiguée hier soir contre Le Havre et voilà, ça s'est terminé sur un match nul. Donc voilà, la confiance, elle est là. Encore une fois, il n'y a pas d'excès de confiance, mais notre classement, même si effectivement tous nos matchs ne sont pas accomplis, prouve qu'on a la capacité aujourd'hui de tenir un rôle dans ce championnat et c'est pas un match nul à domicile qui va arrêter la machine, je pense.
Et la semaine prochaine, vendredi, vous jouez contre Auxerre, qui est 13e au classement. Vous avez gagné 2-0 à l'aller. Là, comment vous appréhendez ce match? Parce que même si tous les matchs ne sont pas gagnés d'avance, il y a quand même une petite une supériorité au niveau du classement déjà.
Au niveau du classement, bien évidemment, mais ensuite sur le terrain, il faut prouver justement qu'on est supérieur à cette équipe. Auxerre, c'est une équipe qui gagne énormément de matchs chez elle. Elle a vaincu en championnat, donc ce sera encore une fois un match difficile. Il faut qu'on arrive à avoir plus de maîtrise dans ce match qu'on en a eu contre Laval, ça c'est certain. Mais nous, on est assez à l'aise aussi à l'extérieur. On a pour le moment pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile, donc ça veut dire qu'on a des capacités à bien gérer ces matchs. On sait que c'est une équipe de contre, même à domicile, donc il va falloir essayer de gagner ce match tout en ne se découvrant pas trop derrière. Je pense que voilà, ça restera la clé du match. On a les moyens de bien faire, mais il faut respecter cet adversaire qui, même si c'est plus l'Auxerre d'il y a quelques saisons, ça reste quand même un adversaire très difficile à battre et il faudra un SCO d'Angers avec toutes ses forces pour pouvoir y arriver.
Si le SCO monte en Ligue 1, Serge le disait, vous n'affronterez pas que des équipes que vous connaissez déjà comme Nantes ou Guingamp, ce sera aussi des équipes comme le PSG, Lyon ou Monaco. C'est une excitation ou c'est une appréhension?
Oh, je crois que c'est surtout une excitation. Je pense que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, les supporters, tout le monde a envie d'évoluer au plus haut niveau et je crois que voilà, aujourd'hui on n'y est pas encore, mais on a toute notre chance, enfin toutes nos chances d'y aller. Il faut faire le maximum déjà pour y aller, ensuite il sera toujours temps de voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'il faudra faire pour pouvoir y rester, parce que y aller c'est une chose, y rester c'en est une autre. Alors, je crois que voilà, on a certainement envie de rencontrer les plus belles équipes de ce championnat de Ligue 1. C'est tout le mal que je nous souhaite, mais encore une fois, on n'en est pas là encore.
Pour finir, quel regard vous portez sur la dynamique des équipes angevines? Pas forcément de foot, forcément, mais bon, on regarde le basket, on regarde le hockey. Quel regard vous portez sur cette dynamique là, sportive à Angers?
Je crois que c'est hyper intéressant pour une ville. Je crois que avoir des équipes sportives qui fonctionnent bien, qui marchent bien, qui sont bien classées, c'est quelque chose de positif. Ça donne une image hyper hyper dynamique pour une ville. Donc voilà, je pense que il y a des études qui ont été faites là-dessus. Je crois que ce soit une équipe de football, une équipe de hockey ou une équipe de basket qui fonctionne bien, qui marche bien, c'est quelque chose qui rejaillit sur l'image de la ville, donc ça peut être que positif. Donc à nous, notamment au niveau du football, de continuer à véhiculer cette image hyper positive pour la ville.
Merci, Serge le disait, d'avoir accepté notre invitation.
Merci, et en tout cas, on souhaite bon courage au SCO et on supporte les couleurs noir et blanc sur Radio Campus.
Merci.
Tout de suite, Public Service Broadcasting s'invite dans le sous-marin avec Spitfire.
The birds fly a lot better than we do. See how they wheel and bank and glide. Perfect. And all in one. Wings, body, tail, all in one. We'll be right back.
Someday, I'm going to build a plane that can be just like a bird. Stretching up for something that's just out of reach. But I'll get it. After all, what I want isn't as easy as all that. I've got to do 400 miles an hour, turn on a sixpence, climb 10,000 feet in a few minutes, dive at 500 without the wings coming off, carry 8 machine guns.
Hello, Hunter Leader, Hunter Leader. Earth is approaching Beachy from Southeast Angels 1-5. Over. Bandits are now about 3 to 4 miles south of Beachy. You should see them in a minute in the dark sun of you. Hello, Hunter Leader. Hunter Leader, Flapper Control calling. Can you see them? Can you see them?
Dernier sport à l'honneur dans ce sous-marin sur Radio Campus Angers, le hockey sur glace. Simon Lacroix, que vous allez entendre tout de suite, est arrivé en cours de saison à la place de coach des Ducs d'Angers. Pourquoi, Charlotte, est-ce qu'il est arrivé au milieu de saison ?
Tout simplement parce que l'ancien entraîneur, donc Alex Stein, n'avait pas les résultats que les dirigeants des Ducs d'Angers souhaitaient. Donc ils avaient des matchs perdus, tout ça, et puis ça correspondait pas, sa psychologie de jeu ne correspondait pas du tout aux joueurs, donc il y avait un peu une mésentente entre joueurs et entraîneurs, et donc voilà, il y a eu un changement de coach, et maintenant on a vu que ça a fait du bien.
C'est avec Simon Lacroix qu'on va entendre tout de suite, il était en ligne cet après-midi. Bonjour Simon Lacroix.
Bonjour.
Vous entraînez les Ducs d'Angers, l'équipe de hockey sur glace ici à Angers. Première question, parce qu'on ne pourra pas cacher votre accent aux auditeurs plus longtemps. Est-ce que le hockey sur glace, c'est avant tout un sport canadien ?
En tant que Canadien, on ne peut pas avoir la prétention de contrôler le sport du hockey sur glace. Par contre, c'est sûr que c'est le sport national au Canada. Et comme dans d'autres pays, comme la Suisse et la Russie notamment, c'est un sport qui prend énormément de place dans la culture du pays. Et c'est sûr que les Canadiens vivent hockey sur glace, c'est sûr et certain.
Et en France, on est en retard?
Je peux pas te dire un retard. En France, vous êtes plus axé sur le foot, le rugby, le basket qui se développe beaucoup. Chose que je peux noter, par contre, c'est qu'il y a une dizaine, une quinzaine d'années, le basket et le hockey sur glace étaient à peu près au même niveau. Et puis, le basket a su prendre les bonnes décisions pour accéder à l'échelle supérieure. Chose peut-être que le hockey peut avoir un certain regret de ne pas avoir réussi à prendre la même progression que le basketball.
Et vous pensez que dans les années à venir, ça peut se régulariser, cet écart?
Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites à la Fédération d'hockey sur glace en France. Il y a eu beaucoup, beaucoup de progression, notamment depuis l'instauration de la nouvelle fédération. Il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent, notamment en 2017, le championnat du monde qui sera partagé entre l'Allemagne et la France. Donc, c'est des très, très bons signes pour le hockey français. On a notamment énormément de joueurs français qui évoluent dans les gros championnats à l'étranger. Ça aussi, ça montre à quel point le hockey français, le développement a évolué. Donc, moi, je vois beaucoup de bons signes. Ce que je souhaite, par contre, c'est que la télé soit plus présente et qu'on ait un peu le hockey français plus souvent dans nos écrans, ce qui va aider tout le monde un peu à créer un marché et peut-être d'amener certains droits télé pour aider les clubs à vivre mieux dans le championnat, puis donner des salaires aux joueurs qui sont peut-être plus adaptés.
Plus de médiatisation.
Bien sûr, vous l'avez dit.
Alors, pour les Ducs d'Angers, la saison vient de se terminer. Vous êtes quatrième de la Ligue Magnus?
Tout à fait.
Quel bilan vous en tirez de cette saison?
Ben écoutez, c'était une saison, comment je dirais, un peu différente. Hein? Pour faire la petite histoire, en début de saison, bon, les objectifs ont été à peu près de finir dans les 4-5 premiers du championnat, chose qu'on a respecté, à mon avis. Et puis, il y a eu le fameux départ de l'entraîneur en chef Alex Stein, le Canadien allemand a été, je veux pas dire remercié, mais disons qu'il y a eu des discussions avec le club et puis bon les dirigeants du club ont décidé de se séparer de lui et puis ils m'ont demandé de reprendre le club par intérim jusqu'à la fin de saison. Donc, moi, j'étais déjà assistant-entraîneur et j'ai dû malgré ma petite expérience, prendre le club en main.
Et ça a été compliqué, cette prise en main?
Ah, c'était compliqué dans le sommeil. Oui, j'ai pas dormi beaucoup, je peux vous l'assurer. Mais disons que le pari du club, à mon avis, a été quasiment gagné, si je peux me permettre, avec la victoire à Bercy de la finale de Coupe de France. Chose que les Angevins, les partisans, les partenaires, tout le monde qui entoure le hockey sur glace Angers attendait depuis 8 ans. Les Ducs d'Angers ont finalement remporté un titre majeur de la Coupe de la finale de la Coupe de France à Bercy. L'événement du hockey français qui est sûrement le mieux médiatisé par rapport à ce que représente Paris Omnisports, Paris-Bercy. Donc ça, c'était énorme pour le club.
Vous dites que c'était un titre très attendu. On aurait pu penser que c'était un objectif ou alors simplement un bonus par rapport à votre classement déjà?
Ah, ça, c'est une excellente question. Vous savez, lorsqu'on a des objectifs en début de saison d'un club comme Angers qui se situe dans les 4-5 équipes de haut tableau du championnat, on peut mettre dans l'agenda qu'on veut faire des finales. Faut savoir qu'il y a 3 tableaux dans la Ligue Magnus. Il y a le tableau des playoffs, la finale des playoffs qui vont débuter bientôt. Mm-hmm. Il y a la finale de Coupe de France et la finale de Coupe de la Ligue, un peu comme le système de foot français. On a perdu en semi-finale de Coupe de la Ligue et puis on s'est rendu en finale de Coupe de France pour ensuite gagner le titre. Je pense qu'avant le début de saison, on peut prévoir ou on peut espérer une finale. Mais après, de prédire, de gagner une finale, c'est autre chose. Ça peut jouer sur tellement de petits détails que c'est difficile pour un club de promettre un titre. C'est vraiment, comment je dirais, exagéré, ou plutôt, peut-être pas le bon mot, mais c'est peut-être poussé un peu trop loin. Par contre, on peut espérer faire des finales. Ça peut être quelque chose qui est plus responsable envers la population qui entoure le hockey. Et puis, c'est sûr que d'atteindre la finale à Bercy et d'après, forcément, la gagner, ben ça remplit plus qu'un objectif à mon avis. Puis c'est bien pour tout le monde qui met beaucoup d'énergie dans le hockey sur Angers.
Qu'est-ce que vous espérez des playoffs là qui arrivent?
Ben écoutez, on va aller le plus loin possible. Si vous me demandez en termes d'objectifs, je vais pas vous mentir en vous disant qu'on espère être champion de France ou quoi que ce soit. Forcément qu'on espère être champion de France. Mais on a des belles écuries devant nous, notamment Briançon et Rouen, qui à mon avis sont un peu au-dessus du reste des clubs du championnat. Et nous, on se situe parmi ces 3, 4, 5 autres clubs qui vont se battre ensemble pour après aller challenger des clubs comme Briançon et Rouen. Tout est possible en play-off, le facteur blessure, le facteur d'une équipe en forme soudée, le facteur un peu chance, bien sûr, et le facteur comment une équipe vit le moment, peut influencer le dénouement des play-offs. Et puis, à Angers, on a quand même une bonne expérience des play-offs. On les prend très humblement et puis on sait que ça va être très très difficile, que toutes les équipes nous attendent maintenant et puis il faudrait être prêt dès la première série qui débute le 28 février.
Simon Lacroix, vous le disiez en début d'interview, vous avez remplacé en cours de saison l'ancien coach. Est-ce que vous serez là la saison prochaine?
Ah, c'est une excellente question. Je vous avoue très honnêtement que c'est pas ma priorité aujourd'hui, de régler ça aujourd'hui. j'ai des bonnes relations avec les dirigeants du club. C'est pas des gens qui m'ont toujours soutenu dans mes bons et mauvais moments personnels, même quand j'étais comme joueur à l'époque. Donc, je suis pas vraiment inquiet de la façon qu'ils vont traiter ce dossier-là. On travaille ensemble. Moi, je suis un employé de l'équipe. Je suis un employé du club qui a fait toutes sortes de fonctions dans le club. Puis je suis encore prêt à faire toutes sortes de fonctions. Si eux jugent que c'est la bonne fonction de me mettre entraîneur-chef pour quelques années, eh bien, on en discutera ensemble. Ça va être fait très bientôt d'ailleurs. Je prendrai ma décision à ce moment-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Et puis, c'est pas quelque chose qui me tracasse le fait que ça ne soit pas confirmé.
Merci beaucoup, Simon Lacroix, d'avoir pris du temps pour répondre à Radio Campus Angers.
Merci à vous.
On referme la page sportive pour ce soir. Merci Charlotte pour tes éclairages. Et on te retrouvera lundi pour le journal des sports, l'éternel journal des sports.
Avec plaisir.
En ce jeudi, on accueille Rémi dans le sous-marin. Rémi, notre chroniqueur éco qui nous parle ce soir du trou de la sécu.
Vous en avez tous entendu parler depuis votre plus tendre enfance. Le trou de la sécu. Ce déficit abyssal, cet écart béant entre recettes et dépenses de la sécurité sociale en France. Créé en octobre 1945 sur la base du programme du Conseil national de la Résistance, la sécurité sociale vise à assurer les salariés contre les quatre principaux risques sociaux. La maladie, dont la maternité, tiens donc, les maladies professionnelles et les accidents du travail, la vieillesse et la famille. Et le chômage? Bah à l'époque, il n'y en avait pas, donc le problème ne se posait pas. Et lorsqu'il s'est posé dès 1958, le grand Charles a créé une assurance chômage qui ne faisait pas et ne fait toujours pas partie de la sécurité sociale. Cette dernière est financée par des cotisations sociales dont le produit recouvre immédiatement les besoins sociaux et est géré de manière paritaire par les syndicats, l'État et le patronat. Tout ce système fonctionne bien tant qu'il y a de l'emploi et de la croissance pour financer cette protection sociale. En gros, pendant toutes les 30 glorieuses. Mais à partir des années 70-80 et du ralentissement de la croissance dans les pays développés, le trou apparaît. Vite, vite, résorbons-le! Les cotisations sociales ne suffisent plus et les patrons gueulent pour en payer plus. Michel Rocard, Premier ministre sous François Mitterrand de 88 à 91, a LA solution. La CSG, Contribution Sociale Généralisée. En gros, 1,1% sur tous les revenus. Systématiquement modifié depuis, ce taux se monte aujourd'hui à 7,5%. En 95, quand Alain Juppé devient Premier ministre de Jacques Chirac, il veut s'attaquer au trou, qui ne s'est toujours pas rebouché vu qu'on n'a fait que d'exonérer les employeurs de cotisations sociales pendant ce temps-là. Du coup, Alain invente, j'adore ce vocabulaire, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, 0,5% sur tous les revenus, comme la CSG. Ce sera provisoire, qu'il disait le grand chauve. Que dalle, on la paye toujours, et le trou est toujours là. Toujours, vraiment? Non. Quand il y a des poussées de croissance et de création d'emplois comme au tournant des années 2000, le trou disparaît comme par enchantement. 1999, 2000 et 2001. Trois années d'excédent. Une Coupe du Monde gagnée un peu plus tôt, une croissance supérieure à 3%, plus d'un million d'emplois créés en quelques années, le passage en l'an 2000, l'âge de raison atteint pour certains d'entre nous, c'était les belles années, quoi. Le trou s'était donc résorbé. Mais pas pour longtemps. Et à tous les défaitistes de revenir à la charge et de hurler « au trou, le grand méchant trou !» La sécurité sociale est inefficace, elle pèse dans les dépenses publiques, les médecins se sucrent dessus, on va se soigner pour un rien. Sauf que niveau performance, on n'a rien inventé de mieux. La mutualisation des dépenses de santé permet de réduire les coûts de fonctionnement. Et pour ce qui est du poids dans la dette totale des administrations publiques, le déficit de la sécurité sociale n'en représente que 10%. On se détend donc. En plus, la sécurité sociale est bien pratique pour les entreprises. Les salariés sont plus rapidement remis sur pied. Avec une protection sociale, on va pas attendre avant de consulter. Le problème médical a donc moins de chances de se développer et est plus facile à régler. La protection sociale est donc nécessaire et indispensable au bon fonctionnement de la société. Il faut préserver ce modèle qu'Obama nous envie et pour ça il doit être financé. Donc il faut créer de l'emploi. Comment ? Par une réduction généralisée et concertée du temps de travail. C'est ce que propose Pierre Larouturou, un homme politique à l'origine du projet des 32 heures. Ce projet n'est pas un dangereux programme d'idéologue jamais sorti de son bureau, mais bien une idée que beaucoup d'entre eux, que beaucoup, comme l'ancien PDG de Danone, estiment novatrice. De nombreuses entreprises comme Maminova, Fleury Michon, Télérama l'ont adoptée en créant de l'emploi et en permettant aux salariés d'utiliser le jour libéré pour se former, se reposer, bref, de gagner en productivité. Mais comme la question de la réduction du temps de travail est devenue un tabou depuis les 35 heures, Larouturou, avec son nouveau parti, Nouvelle Donne, veut surtout encourager les dispositifs de chômage partiel dans les entreprises, avec recouvrement substantiel de l'ancien salaire. Couplé avec une action ciblée et forte sur le logement et la rénovation thermique des bâtiments, ces mesures pourraient permettre, selon leur auteur, de remettre la France sur les rails en matière d'emploi et de reboucher le trou.
Merci Rémi pour cette chronique, on te retrouvera jeudi prochain, on termine le sous-marin avec l'agenda de votre soirée à 20h au centre Jean Villard. La compagnie Piment Langue d'Oiseau présente Nous les filles, qui questionne le rapport de la femme avec son corps. À 20h30, les Pink Floyd sont au quai. Enfin, pas exactement. La compagnie Inouï se propose de jouer The Dark Side of the Moon en live. Thierry Ballas et son équipe présentent donc ce soir et demain leur face cachée de la lune. À 20h30, au 3 mâts, le film La vie comme elle va, une merveille de Jean-Henri Meunier. Au Terroir Coco à 21h22, concert de In a Nutshell pardon, et de The Little Bastards. Et enfin, Elena sera au Jacaré à 22h. Forcément, ce soir, c'est la Blue Moon à l'Arena Loire de Trélazé avec le thème Les 7 péchés capitaux. Voilà, on est en retard, on lâche l'immersion. Aux manettes ce soir, c'était Antoine et derrière les micros, Rémi, Pierre-Antoine et Charlotte. Tout de suite, vous retrouvez une rediffusion de Turbulence avec le groupe Simaway. On vous quitte avec la bulle sonore à propos du Forum pour l'emploi qui se passe demain à la salle athlétiste des Poncés. Vous allez entendre Jean-Yves Tessier, directeur de la Maison de l'Emploi, qui parle du paysage de l'emploi aujourd'hui. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. On se retrouve demain à 19h. Passez une très bonne soirée. Allez, bisous. Quel recul vous avez sur depuis la crise de 2008 dont vous parliez tout à l'heure sur l'évolution du recrutement? Vous parliez pendant la conférence de presse d'une précarisation du recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, effectivement, quand on parle, on parle souvent de la précarisation de l'emploi. Alors, je dis pas qu'il y a pas d'emploi précaire, hein. J'ai pas dit ça, mais c'est assez impropre d'utiliser le mot de précarisation de l'emploi. Il y a davantage de précarisation de recrutement que de précarisation. Exemple, une très très grande majorité des recrutements aujourd'hui se fait à travers un contrat à durée déterminée ou à travers une mission d'intérim. Moins de la moitié, assez même nettement moins de la moitié, se fait en CDI. En revanche, quand on regarde la structuration de l'emploi, on s'aperçoit que plus de 90% de l'emploi est de l'emploi stable, entre parenthèses, entre guillemets, CDI. Donc on voit bien que l'accès à l'emploi ne se fait pas par un CDI, très minoritairement par... Alors, le conseil que je formule, c'est-à-dire n'attendez pas d'avoir un CDI pour accéder à l'emploi, saisissez toutes les opportunités, qu'elles soient CDD, intérim, etc. Ça, ensuite, ça peut ouvrir sur un CDI. C'est bien le processus qu'on voit aujourd'hui se dessiner, et qui existe aujourd'hui.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.